Alors aujourd'hui, je reçois un ex-moniteur d'entraînement physique de l'armée française. Devenu coach sportif, il est également fondateur de nombreux challenges et est aussi passionné d'activité physique au sens large. Pour finir, il est également créateur de contenu et animateur sur une chaîne de télévision pour enfants.
Et voilà, on se retrouve, ça va ?
Vous devinez ? Eh oui, j'ai invité Yannisport à mon micro et entre confidence et challenge, vous allez voir que je ne l'ai pas épargné dans cet épisode. Let's go ! Let's go ! Bienvenue dans le Let's Go Challenge, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sport à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast, qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait comme les autres. Mon métier, c'est de connaître les athlètes sur le bout des doigts et de les challenger en permanence. Donc je ferai exactement la même chose ici. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go! Yannis, très heureux et très fier de te retrouver ici pour un nouvel épisode du Let's Go Challenge.
Très heureux aussi.
Alors c'est un épisode particulier pour moi, pour nous deux d'ailleurs, parce que les auditeurs ne le savent pas, mais on se connaît depuis de nombreuses années. On a grandi au même endroit, proche de Nancy, en Lorraine.
Absolument.
Alors si je t'ai invité ici, c'est pour que tu puisses partager ton parcours, ton évolution et ce qui t'anime au plus profond de toi avec les auditeurs. Et puis tu verras que je t'ai prévu quelques petites surprises sympas.
Ça va piquer, je crois.
Alors je connais forcément une grande partie de ton parcours et de ta carrière, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les auditeurs. Alors tout simplement, par quoi est-ce que tu commences pour te présenter en général ?
Alors je suis Yannisport. Pourquoi Yannisport ? Parce que je suis dans le sport et je m'appelle Yannis tout simplement. Donc j'essaye de faire un petit peu le lien entre les deux. Je suis coach et préparateur physique. La plupart du temps je me décris un peu comme ça, mais aussi créateur de contenu comme tu l'as dit. Et j'ai plusieurs casquettes effectivement, animateur pour une chaîne de télé pour enfants et ambassadeur coach de Paris 2024.
Alors, on va parler un petit peu de ta vie personnelle pour débuter. Tu as grandi en Algérie où tu es né, puis tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans à peu près.
Absolument.
À quel moment est-ce que tu as fait tes premiers pas dans le sport ?
Très tard, très tard, à l'âge de 12 ans. Mais j'ai toujours été baigné dans le sport avec mes frères, effectivement, en Algérie. On n'était pas gâtés en termes d'infrastructures dans les années 90. Mais une fois arrivé en France, effectivement, mes parents m'ont inscrit dans une équipe de foot à Saint-Max, dans la banlieue nancéenne. Et c'est là où j'ai vraiment aimé le sport. Après, j'étais aussi dans l'athlétisme, j'ai fait du judo, je me suis consacré un petit peu plus au foot, c'est vrai. Et j'ai joué à un bon niveau quand même en DH. Et après, j'étais en section sportive au lycée, Pierre de Coubertin, Nancy.
On connaît très bien.
Et ouais.
Plus globalement, comment se sont passées tes premières années lorsque tu es arrivé en France ?
Un peu difficile, c'était une phase d'adaptation. Il fallait s'adapter quand même au départ. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, en CM1. En plus, à cet âge-là, on ment pas trop, les enfants disent trop la vérité. J'étais le seul étranger, entre guillemets, qui venait d'arriver d'un pays étranger. Je connaissais pas trop bien l'alphabet, je savais pas parler trop français. J'avais un accent. Je comprenais évidemment, hein, mais j'étais pas à l'aise et j'étais un peu mis à l'écart. Mais je me suis vite adapté. Pourquoi ? Parce que j'étais bon au sport, donc et les personnes qui m'entouraient, les élèves, etc., m'ont vite intégré parce que voilà, j'étais dans le partage, dans le vivre ensemble, et j'étais toujours ouvert. J'étais good vibes, quoi. J'étais pas isolé tout seul et je m'enfermais pas. J'ai fait mes marques et j'ai pas redoublé forcément, mais j'ai galéré, j'ai dû travailler quand même. Au départ, par exemple, c'est une anecdote, j'avais du mal à comprendre ce que voulait le maître. J'avais un maître en CM1 et je comprenais pas qu'il voulait qu'on apprenne nos cours d'histoire. Et à chaque fois, je me tapais des deux, des trois, et je comprenais pas. Et moi, j'avais pas d'agenda en Algérie, il y avait pas tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une personne qui s'appelait Colette. Elle m'a beaucoup aidé dans ma scolarité en CM1, CM2, et elle me disait, il faut que tu apprennes l'histoire, il faut que tu apprennes la géographie, t'as un contrôle de main. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait apprendre, le soir même, j'ai révisé tout par cœur, et là, mes notes commençaient à augmenter, et je commençais vraiment à m'améliorer. Mais c'est vrai que j'ai une phase d'adaptation très difficile. Des doutes, beaucoup d'échecs quand même.
Et le sport, à ce moment-là, ça a été un moyen de te sociabiliser aussi. Ça a été quelque chose qui t'a aidé. Une inclusion facilitée, je dirais.
Ouais, c'était crucial. Le sport, c'est ça qui m'a permis de m'exprimer, on va dire. D'avoir des copains, c'est un moyen de partage, c'est un moyen de se faire un maximum d'amis. Il y a aussi le fait de partager des choses avec d'autres personnes, quelles que soient les origines.
Et en parlant de partager des choses, là j'avance un petit peu plus dans ta vie, t'es entré dans l'armée ensuite, Pour toi, est-ce que c'était un objectif, une suite logique?
C'était soit le foot, soit le sport de manière générale. Mais je savais en quatrième que je voulais faire l'armée. Je voulais faire un métier d'uniforme, pas forcément l'armée. Je voulais être pompier, peut-être police, peut-être gendarme. Mais c'est vrai que les métiers d'uniforme me procuraient quelque chose. Et je voulais entraîner des personnes qui sortaient un petit peu du banal. Voilà, donc je voulais vraiment entraîner des personnes rustiques pour les préparer à un objectif bien particulier. Et l'armée, ça m'a toujours tenté. Et j'avais le choix, en fait, à la fin de ma scolarité, une fois que j'ai eu le bac, parce que je voulais m'engager quand même en troisième, moi. Mon père voulait pas, il m'a dit « passe le bac, après on verra ». Et j'ai passé mon bac, et je pouvais m'engager en tant que sous-officier directement, en étant sergent. Et là, t'es cadre, tu gères 12 personnes au bout de 2 ans, et là t'es bien, quoi, t'es en place. Mais je voulais pas choisir la facilité, parce qu'on était moins crédible quand on passait par la voie directe. Parce qu'il faut savoir qu'avec le bac, on peut passer directement sergent. Mais je suis passé par le mode soldat, quoi. Soldat, caporal, caporal-chef. Donc, je nettoyais les toilettes. Je passais par vraiment la phase du soldat en régiment. Donc, c'était vraiment très difficile. Et on n'était que des numéros au début. Et à chaque fois, je passais des examens, des concours. Et j'étais destiné à aller au bureau des sports. Parce qu'il fallait avoir des résultats sportifs et psychologique très 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 haut pour intégrer le bureau des sports. C'était vraiment l'élite de l'armée, du régiment, pour les entraîner. Ça veut dire qu'on va entraîner des plus sportifs. Donc les plus sportifs, il faut être plus sportif que le sportif lui-même. Donc il fallait faire vraiment ses preuves, et ça m'a pris quand même 3 ans pour faire ça.
Et à quel moment ensuite t'as décidé de quitter l'armée pour te lancer cette fois-ci dans le coaching sportif, dans le domaine sportif, mais dans le civil?
Quand je commençais à rentrer dans ma zone de confort à l'armée, quand je commençais à faire le tour. Une fois que t'as fait le tour, t'as envie de passer à autre chose. Et c'était pas ma priorité de quitter l'armée. J'ai fini mon contrat. Mais c'est vrai que ça prenait de l'ampleur à côté. J'avais créé un concept qui s'appelait Forme Athlète. C'était juste un site internet de conseils sportifs nutritionnels. Je montrais même pas mon visage. Et je me suis fait repérer par le comité Miss France via ma future épouse à l'époque. Donc elle était styliste, et elle m'a dit: écoute, est-ce que ça te dit de préparer Iris Mittenard pour Miss France, après Miss Univers, etc. Bon, déjà fais tes preuves sur Miss France, après on verra, tu vois. Donc je commençais à l'entraîner, je me faisais un petit peu connaître, mais je me montrais toujours pas mon visage. C'est le gong.
Le fameux gong vient de retentir.
C'est ce qu'on vient d'entendre.
Je t'invite à te mettre en place juste derrière moi. Premier challenge.
Let's go, je suis prêt.
Donc, premier challenge, on va passer donc sur les pompes, 1 minute d'effort. L'objectif, c'est de réaliser un maximum de répétitions sur cette minute-là.
Okay.
Et pendant ce temps-là, la petite difficulté, c'est que je vais te poser une question et tu vas devoir me répondre. Et je t'invite à te mettre en place.
Ça marche.
Okay. Allez, c'est parti. C'est parti. Magnifique, il n'y a pas de correction à apporter sur la technique, ça c'est déjà un bon point. Magnifique. Et j'ai une petite question pour toi.
Ouais.
On en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce que représente l'uniforme pour toi, au sens large ?
Ça représente une manière de s'exprimer, peut-être, de se différencier des autres.
Ok, pourquoi? Mais c'est bizarre.
C'est une manière de s'exprimer, effectivement.
Allez, encore, 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 encore. Yes, combien?
51.
Hé, hey, monsieur, c'est beau, hein?
Ça va?
C'est beau.
J'ai pas trop, tu vois.
T'es bien.
Parce que je me suis dit, il va me poser plein de questions.
Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté.
C'est des questions subtiles.
Ouais, c'est des questions subtiles. Alors, juste avant le challenge, on parlait un petit peu, tu m'as parlé du comité Miss France. Est-ce que tu peux me réexpliquer un petit peu ton rôle à ce moment-là et dans quel cadre tu as été finalement au cœur de cette aventure?
J'avais juste une mission, c'était de préparer Iris Mittenard pour Miss France et Miss Univers. Donc il fallait directement s'adapter par rapport à ce que je faisais avant quand même. J'ai fait 8 ans d'armée, donc c'est 2 choses différentes, c'est 2 préparations différentes, c'est 2 profils différents. On passe du militaire rustique avec une pédagogie très drastique, psychologie, mentale, à une mannequin qui prépare un concours de beauté. C'est autre chose vraiment. Mais c'est 2 expériences incroyables.
D'ailleurs, ce switch-là, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est encore un petit peu ancré en toi, c'est-à-dire que ça a été difficile de connaître cette transition entre instructeur dans l'armée à coach, et notamment coach des stars. Tu parlais d'Iris, je pense à Issa Doumbia, etc.
Non, au contraire, ça m'a aidé à progresser, ça m'a aidé à m'adapter au profil, parce que c'est vrai qu'en tant que coach, on n'a pas qu'un type de profil. Donc je coachais quasiment pas de femmes, moi, à l'armée. Donc je passe quand même de beaucoup d'hommes à une femme. Donc, mais je garde toujours ce côté un petit peu militaire, mais pas trop non plus. Ce côté un peu carré, mais pas trop non plus aussi. J'en tiens par rigueur. Si l'élève arrive un peu en retard, j'essaie de m'adapter. C'est des petites futilités comme ça qui m'ont permis de progresser. Mais c'est vrai qu'à l'armée, si quelqu'un arrive en retard, c'est terminé. C'est fini pour lui. Donc c'est un manque de ponctualité. On est très fermé dans cette catégorie d'erreurs, on va dire. Donc c'est vrai que cette phase d'adaptation m'a beaucoup appris.
On parlait du coaching, donc de célébrité. Est-ce que il t'arrive encore parfois ou quotidiennement de coacher des personnes avec des objectifs un petit peu plus traditionnels et un petit peu monsieur et madame tout le monde ou plus du tout?
Si, je coach un peu tout le monde, ouais. Je coach un peu tout le monde. Maintenant, même avec Paris 2024, je vais dans les ministères. C'est encore notre profil, alors que c'est récent. Ça fait que quelques mois que je suis dans les ministères. Donc, c'est encore d'autres profils que j'ai découverts. En plus des personnes, comme tu as dit, lambda. Mais c'est toutes des personnes lambda, finalement. Parce que moi, je ne différencie pas la classe sociale, le métier, quel que c'est, ça reste des êtres humains. Moi, ça m'excite de préparer un acteur pour un film. Ça m'excite aussi de préparer Camille Combal parce qu'il me dit que je dois être en forme pour présenter Danse avec les Stars ou Chris Marquez pour être jury. C'est des personnes comme les autres. Je les prépare comme si j'avais une personne qui n'était pas connue, quoi. Mais c'est ça aussi qu'ils aiment, je pense.
T'es également très actif sur les réseaux sociaux, tu partages tes entraînements, t'apportes ton expertise et ton avis sur la nutrition et le sport, et surtout, tu motives un maximum de personnes à se mettre ou se remettre en mouvement. Et ça, c'est quelque chose que tu prônes énormément. Au début, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur les réseaux ?
Je me suis lancé sur les réseaux par passion. Parce que j'aime ça, j'aime transmettre, j'aime partager. Donc c'était que des conseils sportifs nutritionnels au départ. Je voulais pas forcément coacher des stars ou alors préparer des personnes pour des films ou être créateur de contenu dans l'influence, etc. Je voyais pas trop loin, quoi. Je kiffais ce que je faisais. Et c'est pour ça que c'est ce que je recommande à tout le monde. C'est d'abord de prendre du plaisir. Si on prend du plaisir soi-même, déjà, on pourra faire plaisir aux autres et consacrer du temps pour les autres avec passion. C'est la priorité. C'est le plaisir avant tout.
Ça fait tout à fait le lien avec ma question suivante, parce que tu as lancé un concept d'ailleurs via les réseaux sociaux, appelé la marche des champions, que j'ai suivi personnellement de près. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
La marche des champions, c'est une aventure humaine et sportive, c'est aussi humanitaire. C'est parti d'une idée, comme à l'armée, vu que j'étais dans l'infanterie, on marchait beaucoup, beaucoup. Et je voulais quand même garder ce côté un peu militaire, mais aussi passionnel pour les réseaux sociaux. Un jour, c'était un mois d'avril 2016, j'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, écoute, je vais faire Roubaix Paris à pied là, demain, est-ce que t'es chaud? Il sait un petit peu ma folie, quoi. Il sait que je suis sérieux, qu'il était encore étudiant à Nancy, et il m'a dit, ok, je prends la route tout de suite, et il m'a rejoint le lendemain, on est parti de Roubaix à Paris, 250 km, sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans le moindre confort, et même sans tente. Donc on est parti vraiment à l'arrache, et on n'avait même pas de sac de couchage, vraiment pour vous dire que c'était encore plus rustique que les marches des champions actuelles, et on a mis 4 jours et 7 heures, et au bout d'un certain nombre de kilomètres, je vois que on s'est fait ravitailler, parce que je partageais tout sur Snapchat à l'époque. J'avais pas encore vraiment Instagram, j'étais pas assez suivi, et j'étais suivi par 800 personnes, je crois, sur Snapchat, et je voyais, il y a une personne au bout de 10-15 kilomètres, elle me ramène des bananes, des pommes, et je me suis dit, il y a un truc là, c'est une aventure humaine, il y a de l'entraide, il y a de la générosité, il y a du vivre ensemble, et la personne m'a dit, je vous ai suivi sur Snapchat, là, et j'habite à côté, et je suis passé pour vous donner des bananes. Donc là, on a remercié la personne, etc. Et ça continue encore. On a reçu des sandwichs, etc. On arrive à la Tour Eiffel, il y avait une cinquantaine de personnes. Et c'était pas encore la marche des champions. Et ensuite, j'ai lancé le concept. Je l'ai déposé. Le but, c'est de partir avec des personnes, justement, qui n'ont jamais fait cette performance de leur vie. Partir d'un point A à un point B, d'une grande ville à une autre. J'ai commencé par Lyon-Montpellier. 317 kilomètres. Et des personnes qui n'ont jamais dépassé 10 kilomètres de leur vie, et ils ont réussi à faire 317 km avec la force du BTC, c'était incroyable. Donc j'étais leur encadrant finalement, et on dormait dehors, et on se faisait ravitailler, et on se fait ravitailler que par l'humain. C'est-à-dire que sans l'humain, sans la générosité des gens, sans le vivre ensemble et sans aussi l'entraide, on n'avance pas sans eux. Donc il y a tous des messages qui sont transmis à travers cette aventure humaine. C'est pour ça que je dis aventure humaine avant de dire aventure sportive, parce que c'est l'humain en fait qui a fait réussir cette association de d'êtres humains, ce combo quoi.
Tu nous as parlé du fameux BTC que tu partages beaucoup sur tes réseaux d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler également?
Le BTC, c'est un état second, c'est un état d'esprit. Le BTC, c'est la femme enceinte qui est en train d'accoucher et qui est en train de se concentrer que sur son bébé. Ça, c'est du BTC, ça. Elle s'occupe pas de ce que le médecin lui dit, elle s'occupe pas de ce que son mari lui dit, même quand il lui tient la main. Elle est en train de se concentrer sur l'effort, sur l'instant présent. Et en fait, c'est un état second dans le sens où on est en train de se dépasser, se surpasser. On est en train de vivre des émotions très, très fortes. C'est plus que de la résilience. C'est l'état de flow. L'état de flow, il a été créé en 1977 par un Hongrois. C'est un psychiatre, psychologue et chercheur. C'est un état de concentration optimale. Et en fait, lui, il suivait des sportifs de haut niveau pour des performances. Et à chaque fois, il posait la même question aux gens, aux athlètes. Il leur disait, mais comment tu fais pour performer autant sur une telle compétition? Et à chaque fois, la même chose revenait de la part des athlètes, c'était la concentration optimale. Et pendant l'effort, il y a toujours cet état de flow, cet état second qui nous transporte, qui nous permet de se dépasser à chaque fois. Donc, il y a des personnes, pendant leur BTC, bloquent ton cerveau, du coup. Pourquoi bloquent ton cerveau? C'est verrouiller toutes les portes du cerveau pour empêcher toutes les ondes négatives de pénétrer dans le cerveau. Ça veut dire que là, il pleut dehors, je suis en train de courir, ben, je verrouille toutes les portes de mon cerveau pour empêcher la pluie de rentrer dans mon cerveau pour m'inciter à arrêter, à lâcher prise. C'est pour ça qu'on dit, ah, j'ai activé mon BTC là. Aujourd'hui, demain, je vais activer mon BTC à 4h du matin, je vais aller courir. Tu vois, c'est vraiment un langage maintenant. C'est ça que j'aime.
Le second gong vient de retentir.
C'est l'heure.
C'est l'heure. Deuxième challenge et on va se remettre en place juste derrière.
Je suis prêt, let's go.
Donc deuxième challenge, ce sera les steppers sur Medicine Ball. C'est un exercice que tu recommandes sur tes réseaux d'ailleurs.
Bien sûr.
Tous les auditeurs s'ils veulent aller le voir en vidéo, c'est possible. L'objectif, c'est de réaliser un maximum de répétitions sur une minute à nouveau. Et bien évidemment, je serai là pour te déconcentrer
en te posant une petite question pendant que tu travailles.
Aïe. Quand tu veux. On est prêt. C'est parti. Allez, top. Ok. Alors Yanis, ma question, c'est tout simplement, qu'est-ce que l'équilibre pour toi dans une vie?
Pour moi, selon moi, c'est avoir une femme et des enfants.
Ok. Ça, c'est ce qui te rend heureux?
C'est ce qui m'équilibre. C'est ce qui me rend heureux aussi. Mais c'est un équilibre. Dès qu'on est déséquilibré, dès qu'on est un peu dans le vague, dans les nuages, ça nous permet de garder les pieds sur terre.
Et on va en reparler juste après d'ailleurs. Allez, encore. On compte facile. Allez. Encore. T'as de la chance, tu m'as répondu très vite à cette question.
En plus, bien.
T'as très bien répondu. T'as très bien. Ça va, ok. 156 répétitions.
C'est quoi encore ça?
On l'a pas fait celui-là.
Je l'ai pas fait.
Pour être honnête,
bon.
Burpees, on peut discuter, mais franchement, Burpees, on a.
Alors, tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu es ambassadeur pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors, au-delà de la fierté que tu dois ressentir, quel est ton rôle concrètement?
Mon rôle, c'est d'être coach et ambassadeur. Ça veut dire que j'interviens dans les événements de Forum de Paris 2024. Là, bientôt, par exemple, quand on était à 134 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, j'étais au Forum Paris 2024, j'animais, en fait, je fais le tour des ministères. C'est vraiment passionnant. La semaine dernière, j'étais à la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est vraiment quelque chose de vraiment particulier pour moi. C'est une fierté. La France est mon pays d'adoption. Je suis très fier d'ailleurs. Mes enfants grandissent à Paris, sont nés à Paris. Et le fait que ce soit chez nous à Paris, c'est une fierté immense. Je suis très très content d'être coach et ambassadeur de Paris 2024. Et ça me fait sortir aussi de ma zone de confort. Parce que quand je suis dans les ministères, j'interviens juste après le discours du ministre, par exemple. Donc je suis au ministère des Finances. Bruno Le Maire est en train de parler à tous ses agents. Et il est sur scène. Donc c'est très sérieux. Pendant 10-15 minutes... Et là, on me dit, Yanis, c'est à toi de jouer. Tu dois animer les 500 personnes présentes et tu dois leur donner les sourires et tu dois les décontracter, quoi. Leur faire passer un bon moment. Et je suis sur scène, sur la même scène et c'est parti, quoi. Donc, c'est ça mon rôle, en fait. C'est d'inciter les gens à faire de l'activité sportive dans tous les ministères et à travers mes réseaux sociaux également. C'est mon job, c'est ce que j'aime.
Et enfin, tu soutiens aussi le Marathon pour tous, que tu courras le 10 août prochain, il me semble.
Oui.
Pourquoi est-ce que ce projet-là te tient à cœur également ?
Mais ça va être passionnant parce que ça va être déjà un marathon très différent. Ça va être un marathon de nuit qui va commencer à 21h. Il y aura pas mal de dénivelés positifs. Ça sera pas un marathon de performance, ça sera plus un marathon de plaisir, selon moi. Je prépare pas mal de personnes pour ce marathon, justement. Et je vais vivre l'expérience avec eux. Et je vais courir aussi le marathon pour tous.
Et c'est quoi le message un petit peu derrière ce marathon pour tous ?
Il y a beaucoup de messages à travers le marathon pour tous. C'est déjà, il y a autant de femmes que d'hommes qui y participent. C'est quand même incroyable, quand même, je trouve. C'est pas le cas de tous les marathons. Donc, c'est quand même un grand pas qu'on a fait vers l'activité sportive pour tous. C'est le marathon pour tous. C'est pas juste pour tous, pour dire pour tous. C'est le marathon pour tous les niveaux et pour ceux qui sont entraînés un petit peu, mais pour toutes les classes sociales et pour tous les sexes. Et ça, c'est incroyable. Je trouve que c'est beau.
On va parler un petit peu d'organisation maintenant. On va parler de ton quotidien. Je sais que tu as un planning extrêmement chargé avec les différentes casquettes que tu as, les nombreux projets également que tu as sur le feu. J'imagine qu'aucune journée ne se ressemble. J'aimerais tout de même que tu me racontes quelle est l'étape de ta journée que tu ne manquerais pour rien au monde.
C'est mon entraînement. Mais avant mon entraînement, je dirais c'est le fait de déposer mes enfants à l'école, à mon avis. C'est la première chose que je fais. Donc, j'ai pas de grasse mat. C'est-à-dire que je me réveille, il est 6h30. Je me prépare et ensuite je prépare les enfants à l'école avec ma femme et je les emmène à l'école. Ça, c'est la première chose que je fais, mais tous les matins. Et je voulais absolument garder cette habitude au quotidien. Avant, je l'avais pas cette habitude, j'allais travailler à 7h du matin. Et je me suis dit, donc c'est ça ma vie. Je me réveille le matin, mes enfants sont en train de dormir et je rentre le soir, sont encore en train de dormir. Et je les vois que les week-ends. Donc c'est ça être entrepreneur, c'est ça être coach. J'avais pas d'équilibre de vie, j'avais pas de stabilité et je travaillais beaucoup trop. Mais ça, c'est normal, c'était les débuts. Mais maintenant que je suis un peu plus posé, je suis pas mal sur les réseaux sociaux, j'ai un planning qui est quand même organisé et j'évite de travailler le matin très tôt maintenant. Après, bien évidemment, il faut que je m'entraîne. C'est l'étape la plus importante. Parce que si le coach ne s'entraîne pas, il pourra pas entraîner les autres. Il faut vraiment qu'il évacue. Il faut vraiment qu'il passe du temps pour lui. Parce que quand on est coach, on a tendance à s'oublier et rentrer dans sa zone de confort. Ça, c'est important.
Je comprends totalement. C'est très juste. Et d'ailleurs, ça va faire le lien un petit peu là aussi, mais tu m'en as parlé à plusieurs reprises. La famille a un rôle extrêmement important pour toi dans ton équilibre et tu me l'as dit. Qu'est-ce que ces moments te procurent dans ton quotidien finalement ?
Ben, ils procurent la stabilité, l'équilibre, le bonheur, l'hygiène de vie, tout en fait, la santé mentale surtout. On néglige la santé mentale en 2024, mais c'est un fléau. Il y a beaucoup de charges mentales quand on vise un petit peu le haut niveau, quoi. Donc on a tendance à s'oublier, on a tendance à travailler pour vivre. Et moi, je parle de mes enfants et ma femme, mais je peux parler aussi d'autres équilibres de personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont leur propre équilibre. C'est pas une généralité, mais c'est vraiment personnel, ça. Pour garder une stabilité dans sa vie, garder aussi de l'humilité, aussi. Parce que quand on commence à être un peu à la télé, quand on commence à faire de l'audience et voilà, ambassadeur de ci, de ça, on peut des fois s'oublier, se dire que on n'est plus trop sur terre. Et en fait, le fait d'avoir déjà sa foi, parce que moi j'ai ma foi, mais aussi j'ai mes enfants et ma femme, c'est ça qui me permet d'être très très terre à terre, quoi. Ça, c'est important.
Ta pratique sportive, là aussi, tu l'as évoqué, ta rigueur aussi d'un point de vue nutritionnel, tout ça, c'est une question d'équilibre. Est-ce que c'est un effort pour toi de garder cette discipline-là ou est-ce que, encore une fois, c'est tout simplement logique parce que c'est comme ça que tu te sens bien ?
C'est pas si logique que ça, c'est un travail contre soi-même à chaque fois. On est des êtres humains, on a tous des moments de faiblesse. Moi aussi, j'ai envie de craquer, hein. J'ai envie de manger des burgers tous les jours, j'aime trop ça. Et j'aime trop les pizzas et il faut pas frustrer les gens, je pense. Mais je me frustre pas, je me fais plaisir quand il faut et j'oublie pas mes objectifs. Je dois être encore plus performant que tous mes élèves parce que je dois leur montrer l'exemple. Et quand j'organise des marches des champions, si maintenant je commence à penser à moi, ça sert à rien. Si je commence à subir, si je commence à montrer mes faiblesses, ça sert à rien. Et surtout, c'est vrai que j'ai un peu trop d'ego sur ça, sur l'orgueil un petit peu. Il faut pas trop que je montre mes faiblesses pendant un effort comme là, par exemple, comme tu viens de dire. Je vais essayer de sourire, mais au final, j'ai le cœur essoufflé. Et c'est du BTC. Ce matin, j'ai dû me réveiller à 5h30 pour manger. J'étais obligé, c'est comme ça. Parce que si je me fais pas mal, comment voulez-vous que je fasse mal à mes élèves? Dans le sens où le mal pour un bien, hein, c'est ça que je veux dire. Des fois, c'est très difficile. Des fois, j'ai pas envie d'aller courir, mais je vais courir. Des fois, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais je suis obligé d'aller m'entraîner. Et donc non, c'est pas logique et non, c'est pas un automatisme. C'est vraiment un combat quotidien. C'est une remise en question, c'est voilà...
Et le troisième gong vient de retentir. C'est le moment d'activer ton BTC. Troisième et dernier challenge.
C'est le dernier. Tu me promets.
Promis.
Troisième et dernier challenge. Burpees.
On y vient.
Les fameux. 30 secondes d'effort cette fois-ci. Okay. Objectif, toujours la même chose. Maximum de répétition et je suis toujours là pour te questionner pendant. Allez, c'est parti. Let's go. Yannis, ma question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Aucune idée, je sais même pas ce que je vais faire demain. Tu me parles de 10 ans. Parce que je sais qu'il y a des gens qui t'invitent à des mariages en 2028. Tu sais, tu te dis, mais les gars, comment vous faites? Je sais même pas si je serai en vie demain. Franchement, je me projette pas trop.
Ouais, je comprends. Ok, donc tu sais pas où tu seras dans 10 ans.
Non, j'espère que je serai heureux, c'est tout. Et en vie.
Mais c'est bon.
Ouais.
Oh, ouais, c'était bien. Oh, parfait. Merci beaucoup, Yannis.
Bravo.
Je te laisserai là-dessus, en tout cas. Merci pour ce moment. Et je te souhaite un maximum de réussite dans tes projets,
merci,
soit personnel et professionnel.
Je te dis merci. Merci pour l'accueil, c'était super. J'ai kiffé.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park, parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre.
Let's go!